Serge Tizi est professeur d'histoire et géographie au lycée Félix Esclangon à Manosque. Il anime aussi régulièrement l'émission mensuelle Géopolitique et Histoire des humains sur nos ondes de fréquence Mistral. Il propose un rendez-vous radiophonique, évidemment, télétravail oblige, que nous avons mis au point et enregistré chez lui, à distance, évidemment. Un cours d'histoire et géographie que j'ai eu le plaisir de traiter le son et puis de pouvoir vous le diffuser. C'est destiné aux élèves de terminale du lundi au jeudi de 9h20 à 9h50. Ce sont des fiches pédagogiques sur un thème bien précis. Aujourd'hui, la Chine et le Japon. Ce cours est diffusé durant ma matinale, les lundis, mardis et jeudis de 9h20 à 9h50 durant toute cette période de confinement. Il suffit de vous rendre et d'indiquer aux gens qui veulent rejoindre l'écoute de se connecter sur le site de fréquencemistral.com ou si vous êtes sur Manosque d'écouter ça sur votre poste radio sur 92.8. Si vous allez sur le site de fréquencemistral.com, vous allez cliquer sur écouter le direct. Faites passer l'info. Ça peut intéresser évidemment les élèves de terminale, mais aussi les auditrices et les auditeurs qui veulent simplement se cultiver. Allez, je vous propose de retrouver Serge Tizi pour son cours Fiches pédagogiques pour les élèves de terminale, mais aussi pour les auditrices et les auditeurs qui veulent se cultiver. Dans son cours, le thème, c'est la Chine et le Japon. Je vous demande d'accueillir Monsieur Serge Tizi.
Bonjour chers auditeurs et auditrices lycéens de terminale. Je suis Monsieur Serge Tizi, je suis professeur d'histoire géographie au lycée Esclangon. Je me suis dit que la radio pouvait être un bon transmetteur de connaissances pour des élèves isolés, confinés chez eux. Ceci est un complément audio qui a pour but de dire l'essentiel, à savoir en 20-30 minutes, sur un des thèmes qui tombera au baccalauréat. Le thème d'aujourd'hui est Chine-Japon, concurrence régionale, ambition mondiale. Le sujet n'est pas qu'une seule comparaison entre ces deux pays. Il a pour but de voir comment ces deux puissances asiatiques rayonnent sur l'Asie et quels sont leurs vœux de puissance et leur politique de puissance dans la mondialisation. Je diviserai donc mon plan en trois parties. La première sera un bref retour sur l'histoire et la géographie de ces deux pays. La deuxième, c'est comment ces deux puissances rayonnent sur l'Asie. Et la troisième, c'est comment ces deux puissances tentent de devenir fondamentales dans le cadre de la mondialisation. Donc, dans une première partie, je vais parler de l'histoire et de la géographie. Pour la Chine, son histoire contemporaine est divisée en deux parties. La première, de 1850 à 1949. Cette période est considérée par les Chinois eux-mêmes comme un siècle d'humiliation. En effet, les puissances européennes ont colonisé les ports de ce pays. Le Japon a dominé ce pays, l'a même envahi de 1937 à 1945. Et à ces invasions étrangères, on se sont aussi greffé une véritable guerre civile, notamment entre communistes et nationalistes, entre 1921 et 1949. Tous ces événements historiques contemporains n'ont pas permis la montée en puissance économique de la Chine. Pendant ce même temps, de 1860 à 1949, le Japon, lui, est entré dans les révolutions industrielles, a copié allègrement le modèle économique européen et américain, est devenu une puissance telle qu'il a réussi à conquérir l'Asie en vainquant même les puissances européennes et américaines jusqu'en 1942. Après 1945, la croissance économique entre les deux pays est encore différente. Le Japon, en 1945, est vaincu et ruiné. Il est cependant allié des États-Unis et aidé à se reconstruire avec le plan Marshall, et il adopte lui aussi les principes économiques à la fois libéraux et nationaux des Américains. Dès 1970, le Japon devient la troisième puissance économique mondiale, avec de grands groupes comme Toyota dans l'automobile, Sony, Fuji. Dans les années 90-2000, il est même la deuxième puissance économique mondiale au coude à coude avec l'Allemagne. Le Japon est aujourd'hui la troisième puissance économique mondiale. La Chine est ruinée en 1945. Elle devient communiste avec la victoire de Mao Tse-tung en 1949. Le modèle soviétique puis maoïste empêche la croissance économique. La Chine est dans début des années 80 encore un pays du tiers-monde et fermé sur lui-même. À partir de 1979, pourtant, Deng Xiaoping lance la modernisation chinoise actuelle. En 2020, la Chine est devenue aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. C'est l'atelier du monde. C'est là où quasiment tout se fabrique. Et nous en avons en ce moment la traduction avec les masques et les médicaments qui ont été délocalisés. Alors qu'on pensait jusqu'à présent que seul l'électroménager et le textile y avaient été délocalisés. Ces deux puissances ont une géographie différente. Le Japon est un archipel composé de 6852 îles. L'économie et la population sont concentrées sur la façade orientale, dans la mégalopole qui va de Tokyo avec 34 millions d'habitants à Nagasaki au sud sur une bande côtière de 40 km de large au mieux et 1000 km de long. Cette mégalopole japonaise concentre 80% des 127 millions d'habitants japonais et 80% de son potentiel et de sa puissance économique. La Chine, quant à elle, est un pays continent. C'est le troisième plus grand pays après la Russie et le Canada. Elle a 14 pays voisins. Elle est peuplée d'1,3 milliard de Chinois. Après les interdictions maoïstes d'émigrer en ville, les Chinois se sont concentrés de plus en plus dans les agglomérations depuis 40 ans, notamment dans les espaces industriels et portuaires le long du littoral, comme par exemple autour de Shanghai et le delta du fleuve Yangtze, ou le long de l'axe Pékin-Tianjin. Nous allons maintenant voir dans une deuxième partie comment ces deux puissances rayonnent sur la région. Nous allons commencer par le Japon. Le Japon est pour beaucoup de pays de la région un modèle de développement économique. La Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, ceux qu'on appelait les petits dragons, ont copié le modèle industriel nippon. Ils ont par exemple copié le modèle des entreprises nippones, comme les Aki. Ce sont des conglomérats d'entreprises, comme par exemple Mitsubishi ou Nissan. Ils ont des sociétés de commerce qui prospectent les marchés mondiaux. Acer à Taïwan ou Samsung en Corée du Sud ont copié ces modèles japonais. Le Japon, par ses entreprises, a beaucoup délocalisé sa production industrielle à la chaîne vers des pays à bas coût, en Chine, à Taïwan, en Thaïlande, en Indonésie. Le but de ces délocalisations est de conquérir un marché nouveau, en produisant à moindre coût. Par conséquent, le produit est moins cher et peut être vendu. C'est ce qu'on appelle une conquête de marché. Toyota est devenu ainsi le premier constructeur asiatique de la région Asie. La Chine populaire depuis 20 ans. La Chine populaire de Xi Jinping est devenue l'atelier du monde. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, tous les pays asiatiques industriels y ont fait des investissements, notamment en délocalisant leur production industrielle de base. Le but étant toujours la main-d'œuvre bon marché chinoise, qui n'a même pas le droit de faire grève et travaille plus de 16 heures par jour. Mais la Chine délocalise aussi une partie de sa production vers certains pays d'Asie, comme par exemple le Vietnam, les Philippines, le Bangladesh, car son industrie, notamment textile, a aussi besoin de réduire ses coûts pour conquérir de nouveaux marchés. L'ouvrier vietnamien ou bangladais coûte déjà moins cher que l'ouvrier chinois. La diaspora chinoise dans la région est importante. 30 millions de personnes d'origine chinoise vivent en Asie du Sud-Est, soit 80% du total mondial de la diaspora chinoise. Elle est très majoritairement citadine. On la retrouve à Hanoï, à Bangkok, à Manille, dans des métiers comme le commerce ou les services. Elle est un facilitateur des investissements chinois dans les pays par les relations familiales très importantes dans la culture chinoise. On peut même voir des relations de ville à ville, hein, des gens qui sont originaires de villes et qui se retrouvent à l'autre bout du monde, et notamment en Asie, et qui font du commerce donc avec des familles d'origine chinoise. Elle peut être aussi un frein, comme après les répressions communistes de Tiananmen en 1989 contre les démocrates chinois, ou comme relais des contestations, notamment quand les citoyens de Hong Kong manifestent contre une emprise chinoise de Xi Jinping trop importante sur leur liberté locale. La montée en puissance de la Chine inquiète la région et joue dans les relations sino-japonaises. En même temps qu'il y a compétition, voire conflit, les relations économiques restent cependant et se développent. Les pays asiatiques voient d'un mauvais œil le hard power chinois se développer, c'est-à-dire cette montée en puissance militaire et économique sur la région. Depuis Xi Jinping notamment, car le budget militaire chinois est devenu le deuxième au monde, cependant 10 fois moins que celui des États-Unis d'Amérique. Les Chinois ont désormais 2 porte-avions plus 2 porte-avions en construction. La Chine occupe illégalement et militarise des récifs des îles Spratly contre l'avis du Vietnam, des Philippines et de la Malaisie qui y voient une ingérence chinoise dans leurs eaux territoriales et le potentiel en hydrocarbures qu'ils recèlent. La Chine inquiète aussi le Japon sur un archipel des îles Senkaku au nord de Taïwan. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est pour les ressources halieutiques, c'est-à-dire le pétrole et le gaz qui se trouveraient à l'intérieur de cette mer. La Chine revendique toujours Taïwan, qu'elle empêche d'entrer aux Nations Unies. Elle considère Taïwan comme étant une Chine à reconquérir ou à intégrer sa Xème province. Par sa banque d'investissement, la Chine investit dans les infrastructures, les ports, les autoroutes, les barrages dans l'ensemble de la région asiatique. De la Mongolie à la Russie, on voit des travailleurs chinois sur des chantiers chinois. On les voit aussi aux îles Ceylan, on les voit aussi en Asie du Sud-Est reconstruire des ports ou parfaire des facilités portuaires. Ces entreprises chinoises n'ont qu'un seul but, c'est celui de constituer ce que le Xi Jinping appelle le collier de perles, c'est-à-dire une succession de ports qui devraient faire en sorte que les Chinois possèdent après des véritables routes de la soie à leur seul bénéfice. Les pays asiatiques sont partagés entre nécessité de profiter de ces investissements chinois et crainte d'être définitivement dominés. Ainsi, les pays d'Asie du Sud-Est ont formé une alliance économique, la ASEAN, qui a de plus en plus de liens avec le Japon, mais aussi l'Inde, pour contrer la domination chinoise sur la région asiatique. Face à cette montée en puissance chinoise, le Japon s'investit de plus en plus. Le Premier ministre nationaliste Shinzo Abe a clairement défini un réarmement japonais, qui se fait sous le parapluie américain. C'est-à-dire que le Japon reste et restera pendant longtemps encore l'allié principal des États-Unis dans la région. Le Japon se rapproche donc reste donc allié des États-Unis, mais il est aussi et se rapproche d'alliés nouveaux, ainsi l'Inde, mais aussi l'Asie du Sud-Est, ce qui n'était pas évident pour un pays qui avait conquis et soumis les peuples sud-est asiatiques entre 1939 et 1942. Le Japon renforce donc son potentiel militaire et de plus en plus de voix au Japon demandent une révision de l'article 9 de la Constitution imposée en 1945 par les vainqueurs et qui font du Japon une puissance pacifique avec une armée d'autodéfense. Quelles sont les ambitions mondiales de ces deux puissances et leurs limites ? Le Japon est un géant économique et culturel mondial. Mais il est aussi un nain politique. Pourquoi ? Le Japon appartient au pays de la triade. Économiquement, c'est un pays puissant, un des grands pays puissants du monde. Le yen est une monnaie respectée sur le marché international. La bourse de Tokyo est la deuxième bourse mondiale. Le nombre de firmes transnationales dominant l'économie mondiale est important. Et je ne rappelle ici que les noms de Toyota, Sony, Mitsubishi. Ce pays est membre fondateur du G7 qui gouverne les destinées du monde et du G20, c'est-à-dire le G7 plus les 13 autres pays que l'on appelle émergents. La culture nippone rayonne aussi sur le monde, comme en témoignent le judo, les dessins animés japonais, les mangas, mais aussi en Occident l'objectif de 80% de bacheliers qui vient du Japon dans les années 1980. Le Japon est le troisième donateur d'aide au développement du monde, soit par le biais de l'ONU, soit par ses propres institutions nationales d'aide au développement. Quelles sont les limites actuelles de son développement ? La première limite à ce développement est sa démographie. La population japonaise est très vieillissante. Le taux de fécondité est à peine d'1,2 enfant par femme. Si rien ne change, d'ici quelques années, et de façon radicale, le Japon perdra d'ici 30 ans 36 millions d'habitants par manque de naissances. D'autant plus que ce pays n'attire pas et ne veut pas d'immigration. L'autre problème qui se pose pour le Japon, c'est un problème de géographie physique. C'est un espace de séismes, de tsunamis, et les catastrophes de Fukushima ou les catastrophes de Kobe, eh bien, coûtent énormément d'argent pour l'économie chinoise. D'autant plus en troisième lieu que ce pays a comme limite le fait d'être très dépendant au niveau de ses matières premières, de son alimentation de la part de l'étranger. Enfin, le Japon a comme souci de ne pas avoir de siège permanent au Conseil de sécurité, ce qui l'empêche d'avoir l'ensemble du panel des dispositifs permettant d'être des puissances mondiales internationalement reconnues. Pour ce qui est de la Chine maintenant, la Chine est la première puissance industrielle et commerciale au monde. Elle a acheté Volvo pour en avoir les brevets pour améliorer sa propre production industrielle automobile. Elle prête de l'argent au Brésil pour plus de 50 milliards il y a 5 ans. Elle rachète le port du Pirée à Athènes et investit dans les ports italiens. Elle investit en Afrique, en Amérique latine. Elle accepte des délocalisations chez elle en échange de transferts de technologie. Elle inonde les marchés de produits made in China comme le wok africain. Xi Jinping constitue des colliers de perles, des ports chinois à l'étranger, exemple Colombo au Sri Lanka, pour en faire des routes maritimes de la soie purement chinoises au service des produits chinois. La Chine investit aussi dans la recherche, on la retrouve dans l'aérospatiale, dans les intelligences artificielles, en développant ses propres réseaux sociaux marchands, comme Alibaba, l'équivalent Amazon chinois. La culture chinoise attire aussi. C'est par exemple le cas de la gastronomie, mais aussi le tourisme en Chine, ou encore la langue chinoise qui attire de plus en plus d'étudiants vers elle. Je souligne à ce titre que 31 000 Français vivent en Chine et que 600 000 Chinois vivent en France, ce qui montre encore l'importance de ce pays dans les flux migratoires actuels. C'est une puissance politique mondiale. La Chine a un droit de veto au Conseil de sécurité. Elle défend ses intérêts et aussi ses amis, comme par exemple Bachar el-Assad en Syrie. Elle soutient les pays autoritaires et reçoit le soutien des partis populistes autoritaires aussi, que ce soit Orban dans l'Union européenne ou en Birmanie, le régime de Yoon Suk-yeol. Existe-t-il des limites à cette puissance chinoise ? Eh bien, j'en relèverai trois. La première, c'est que c'est une dictature, et une dictature très dure. Prenez par exemple le cas des Ouïghours dans l'état du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Vous avez plus d'un million d'Ouïghours qui sont enfermés dans des laodai, c'est-à-dire des centres de rééducation du Parti communiste chinois. C'est quand même une des preuves de la faiblesse d'un soft power chinois. L'autre preuve de faiblesse du soft power chinois, c'est la langue. C'est une langue très difficile, et pour concurrencer l'anglais américain, ou le globish qu'on appelle, comme on l'appelle, c'est-à-dire cet anglais un peu imparfait que l'on parle un peu partout, eh bien, il faudrait que la langue chinoise soit une langue plus simple à aborder et à enseigner. Enfin, il faut que le gouvernement chinois et Xi Jinping garantissent deux choses à la population. La première, c'est une garantie de croissance économique continue qui permette à la population chinoise d'accéder à la classe moyenne. Et ceci n'est garanti que si l'économie mondiale fonctionne. En effet, on ne peut être l'atelier du monde que si les produits chinois sont vendus dans le monde. Si jamais il y a une crise mondiale, comme elle semble apparaître en ce moment, eh bien, il y a de fortes chances que l'économie chinoise soit aussi impactée par une récession économique mondiale. Donc la Chine n'a pas intérêt, mais pas intérêt du tout, à ce que la situation actuelle perdure. Elle a plutôt intérêt à ce que le phénomène du coronavirus soit soigné le plus rapidement possible pour que son économie puisse repartir. Ce n'est pas tout que l'économie chinoise ou les industries chinoises puissent se remettre au travail, mais c'est surtout important que les produits chinois trouvent acquéreurs. Mais si jamais la population est confinée chez elle, la population mondiale est confinée chez elle, dites-vous bien une chose, c'est qu'ils ne pourront pas vendre leurs produits. Donc voici, mes chers élèves, ce que j'ai à dire aujourd'hui sur cette question. Je vous invite à regarder de dessous des cartes, l'un sur l'Asie-Pacifique, qui est le plus récent, et l'autre sur le Japon, qui vous éclaireront aussi dans vos révisions ou dans l'édification de vos cours. J'espère que ce cours vous aura été utile, et j'espère vous retrouver très bientôt, peut-être lundi, pour un nouveau cours, celui-ci sur l'Union européenne et sa construction. Voilà, mes chers élèves, chers auditeurs, je vous souhaite à tous un très bon confinement, le mieux qu'il se passe pour vous et qu'il se passe vite. Restez chez vous, ne sortez pas. Plus nous serons confinés, mieux nous nous porterons et plus vite nous sortirons de cette maladie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et bonne continuation à tous et santé pour tous surtout. Au revoir et à lundi.
Au revoir et oui, à lundi, puisque ce rendez-vous est donné le lundi, mardi et jeudi jusqu'à la fin de ce confinement. Serge Tizi, professeur d'histoire et géographie au lycée Félix Escangon, propose des cours. Il annonce préalablement, évidemment, à ses élèves, parce que c'est à destination des élèves et aussi des auditeurs, le sujet qu'il va aborder. Donc, lundi prochain, connectez-vous sur le site de Fréquence Mistral, mais aussi sur le Facebook de Fréquence Mistral pour avoir cette information du prochain cours de Serge Tizi qui aura lieu, donc, lundi, de 9h20 à 9h50. Juste en passant, comme ça, je suis pas du genre à balancer des coups de gueule comme ça, comme le font beaucoup d'animateurs radio en ne parlant pas de ce qu'ils savent. Moi, j'ai été aussi professeur pendant 17 années dans l'éducation nationale. Je peux vous dire que lorsqu'on dit, dans une période de confinement, que les professeurs ne font rien parce qu'ils restent à la maison, je pense qu'il faut être très bête, et même si bête qu'on ne réfléchit pas. À bon entendeur, salut, c'était mon coup de gueule de ce matin, parce qu'il faut pas déconner quand même. Regardez des initiatives comme nous avons construit avec Serge, parce que nous avons construit cette initiative ensemble. Ça existe certainement un peu partout, parce que je connais ces gens de cette profession, c'est tout sauf des fainéants, compte tenu du salaire qu'ils ont. En plus, on peut pas dire qu'ils profitent de la table du roi comme certains. On se donne rendez-vous donc dans le cadre des cours que dispense Serge Tizi, des cours radiophoniques Histoire Géo, des fiches pédagogiques concernant l'Histoire Géo. Aujourd'hui, c'était la Chine et le Japon. Vous pouvez revoir et réécouter surtout. Vous pouvez réécouter ce cours sur le site de fréquencemistral.com dès ce matin. Du
durant cette crise sanitaire majeure, toutes les équipes de Fréquence Mistral se mobilisent pour vous informer et vous divertir. Retrouvez chaque jour nos infos de la musique et des émissions riches et variées. Nous vous invitons à écouter le direct et réécouter tous les podcasts de nos émissions sur le site de fréquencemistral.com. Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.